VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du lundi 11 avril 2016. Au sommaire ce soir...
Présidentielle au Tchad, les SMS et Internet coupés au lendemain de l'élection.
Troubles au Congo-Brazzaville, les populations fuient les zones ciblées par l'armée.
J'ai vécu les drames, je suis prêt à témoigner. Déjà, ils ont ôté la vie de ma mère, de ma sœur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ?
Référendum sur le statut du Darfour, région troublée du Soudan. Le vote a commencé aujourd'hui.
Somalie, un journaliste rallié à Al-Shabaab est condamné à mort. Il aurait organisé l'assassinat de 5 de ses collègues.
Déclaration choc de Barack Obama au sujet de la Libye. Le président américain estime que sa pire erreur a été le manque de suivi après l'intervention militaire qui a conduit à la chute de Kadhafi.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Présidentielle au Tchad, le dépouillement du vote d'hier se poursuit. La commission électorale affirme que les résultats seront connus dans 2 semaines. Et c'est dans ce contexte que les services SMS et Internet privés ont été coupés. On rejoint sur place notre correspondant André Kodmedjingar.
À partir d'aujourd'hui, juste 2 semaines après ce 10 avril, un média qui tenterait, n'est-ce pas, de donner les résultats, sinon de donner des tendances, sera poursuivi conformément au code électoral. Donc, le résultat ne sera pas connu avant 15 jours.
On a appris que les communications SMS et Internet sont bloquées au Tchad. Que disent les autorités à ce sujet ?
En apprenant la leçon par rapport aux manifestations de la semaine dernière, par rapport à la société civile qui a exigé le retrait de la candidature du président Bibi pour cette élection, en apprenant cette leçon, les autorités ont dit que dans ce cas, il faut couper systématiquement le système Internet, le système SMS pour ne pas que les gens envoient des messages, des mails par-ci, par-là, sur le Facebook et tout ça, et attendre à ce que la CENI, qui a habilité à donner le résultat du pouvoir, puisse se prononcer avant que les réseaux sociaux ne soient rétablis.
André Kodmadjingar à N'Djamena. Burundi, retour sur le putsch de juillet 2015. 21 accusés ont comparu ce matin devant la Cour suprême de Gitega. Le procès avait été reporté il y a quelques semaines pour des motifs de procédure. Seul le général Cyril Ndayurkiye, présenté comme le cerveau du putsch de mai 2015, a été entendu par la Cour. Les autres le seront demain mardi. Reportage à Bujumbura de Christophe Kurunziza.
Adolphe Manirakiza, substitut du procureur général de la République, a indiqué qu'une des raisons d'avoir interjeté appel est que la Cour suprême n'a pas montré une corrélation entre les manifestations et les putschistes. Accusé de tentative de putsch, de tuerie de militaires et policiers et destruction d'infrastructures publiques estimée à 18 milliards de francs burundais, l'ex-général Cyril Ndayurukiye, un soi-disant cerveau du putsch manqué du 13 mai 2015, a demandé ce lundi matin devant la Cour suprême de Gitega au centre du Burundi d'amener à la barre l'ancien ministre de la Défense, Poncien Gachibouguengue, l'actuel chef d'état-major de l'armée, Prime Niyongabo, et le général Godefroy Niyombare, ancien chef des renseignements burundais. Il a aussi demandé à la Cour de demander au chef d'état-major ce qu'il a fait pour protéger les accords de paix et de réconciliation qui sont bel et bien inscrits dans la Constitution. Cyril Ndayurukiye a déclaré que si le putsch avait réussi, la population serait aujourd'hui tranquille, de même que le président burundais. La Cour a indiqué qu'elle a pris bien note de toutes ses observations et qu'elle en tiendra compte lors du jugement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dialogue national en République démocratique du Congo. Le comité préparatoire sera en place à la fin de la semaine. Selon le facilitateur désigné par l'Union africaine, le forum devrait durer 2 semaines. Edem Kodjo a réaffirmé ce lundi à Kinshasa qu'il travaille dans le souci de faire respecter les délais constitutionnels. L'ancien Premier ministre togolais a par ailleurs lancé un appel à tous de rejoindre la table du dialogue. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous ne pouvons pas travailler avec l'idée de ne pas respecter les délais constitutionnels. Je l'ai déjà dit, et si ce n'était pas assez clair, je le redis. On l'a même mentionné dans le communiqué conjoint Union africaine, Nations unies, Union européenne, francophonie. C'est marqué clairement. Donc je le redis, le problème qu'il y a aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il y a la constitution qu'il faut respecter, il y a les délais constitutionnels qu'il faut respecter, mais il y a aussi le problème que tous les les jours qui passent sont des jours qui ne permettent pas de dire que nous allons respecter ces délais dans les meilleures conditions. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que les délais soient épuisés pour commencer à nous poser la question qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'un homme prudent et normalement avisé, le bon père de famille, nous voyons quelles sont les dispositions qu'ensemble, assis autour d'une table, nous pouvons prendre pour faire avancer les choses?
Les habitants du Darfour ont commencé aujourd'hui à voter dans le cadre d'un référendum sur le statut administratif de cette région troublée du Soudan. Cette consultation est toutefois boycottée par les groupes rebelles et critiquée à l'étranger. Jacques Aristide.
Les électeurs doivent décider s'ils veulent conserver l'organisation administrative actuelle du Darfour, divisée en 5 États, ou les fusionner en une seule et même région. Le président soudanais Omar el-Béchir, qui a voulu maintenir ce vote référendaire malgré les combats au Darfour, soutient la première option, laquelle est critiquée par les observateurs. Les États-Unis ont fait part de leurs inquiétudes, estimant qu'un référendum au Darfour ne pouvait pas être considéré comme une expression crédible de la volonté du peuple du Darfour. Quant aux insurgés qui combattent le régime de Khartoum depuis 2003, mais qui se disent des fervents partisans de l'unification du Darfour, ils boycottent le référendum qu'ils jugent inéquitable. Les électeurs ont jusqu'à mercredi soir pour se rendre dans les bureaux de vote, protégés par des policiers armés et dont les murs sont couverts d'affiches appelant à une participation massive. La commission électorale affirme n'avoir relevé aucun problème ce lundi.
Somalie, un journaliste rallié à Al-Shabaab est condamné à mort. Il aurait organisé l'assassinat de 5 de ses collègues. Idriss Fall.
Hassan Hanafi a été arrêté en août 2014 à Nairobi et extradé en Somalie. D'après le tribunal militaire qui l'a jugé à Mogadiscio, il avait confessé et a été reconnu coupable d'avoir organisé le meurtre d'au moins 5 journalistes somaliens. Il a été passé par les armes à l'aube à l'académie de police de la capitale. Plusieurs confrères ont assisté à son exécution. Samedi, 2 Shabab sont déjà passés devant le peloton d'exécution. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir assassiné une journaliste de la télévision nationale en fin 2015. 45 journalistes ont été assassinés dans le pays depuis 2007. Les Shabab ciblent souvent des membres du gouvernement, des parlementaires et des journalistes. Aussi, ce lundi, au moins 5 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à quelques encablures de la mairie de Mogadiscio.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans une rare interview sur Fox News, le président américain Barack Obama a jugé que sa pire erreur a probablement été le manque de suivi après l'intervention militaire en Libye de 2011 qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. Salwa Jafari.
Une confession d'autant plus étonnante qu'elle a été accordée à la chaîne de télévision Fox News, connue pour son soutien indéfectible au Parti républicain et sa critique acerbe de Barack Obama. Interrogé sur sa pire erreur, le président Barack Obama a répondu probablement de ne pas avoir mis en place un plan pour l'après ou lendemain de ce qui fut, je pense, une intervention justifiée en Libye. Le président des États-Unis a à plusieurs reprises reconnu que son pays et ses alliés auraient pu faire mieux après l'intervention en Libye, où une coalition conduite par la France et la Grande-Bretagne, relayée par la suite par l'OTAN, a mené en 2011 des raids aériens. Après la chute de Kadhafi, l'État libyen s'est effondré, les milices rivales se disputant le pouvoir et l'organisation État islamique ont profité du chaos pour monter en puissance. Un processus fragile soutenu par l'ONU et les grandes puissances a permis récemment la mise en place d'un gouvernement d'union libyen. Mais le chef de ce gouvernement parallèle, Khalifa Rouhiel, a toutefois annoncé mercredi qu'il refusait de partir et qu'il demandait à son cabinet de rester en poste.
Les voyages périlleux en mer Méditerranée continuent. Les gardes-côtes libyens ont secouru aujourd'hui 115 migrants clandestins au large de Tripoli lorsque leur bateau est tombé en panne alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe par la mer, selon un responsable. Après avoir reçu une assistance du HCR, les migrants ont ensuite été transférés par bus vers des centres d'hébergement à Tripoli.
12 recrues de l'armée afghane ont été tuées et plus d'une vingtaine d'autres blessées ce lundi dans un attentat suicide revendiqué par un porte-parole du mouvement taliban. Les insurgés ont visé le car qui les transportait dans l'instable province de Nangarhar, dans l'est de l'Afghanistan. Afghans, pakistanais, chinois et américains se réunissent périodiquement à Islamabad et Kaboul depuis janvier et appellent au dialogue. Ces appels sont toutefois restés sans effet, les talibans refusant les pourparlers directs avec le gouvernement afghan.
En Syrie, les commandants rebelles et leaders politiques de l'opposition qui cherchent depuis 5 ans le renversement du président Assad ont averti que la cessation des hostilités négociées en février par les États-Unis et la Russie est près de s'effondrer. Ils se préparent donc pour une offensive du régime contre la ville d'Alep. Il y a peu, selon l'opposition, 66 violations de l'accord durant ces dernières 48 heures par les forces du régime et les troupes russes. Près de 100 personnes, dont 7 enfants et 5 femmes, ont été tuées dans des frappes de l'armée gouvernementale, apprend-on de même source. Damas n'a pas réagi dans l'immédiat.
Avec l'été qui s'approche, Zika pourrait se frayer un chemin vers l'Europe et les États-Unis ont averti aujourd'hui des experts réunis à Amsterdam. Mais les infections dues à ce virus y seront localisées et de courte durée. Il n'y a aucune raison de paniquer et il serait inutile de dépister systématiquement les voyageurs au retour d'un pays où sévit l'épidémie, selon des médecins et des scientifiques participant à la conférence européenne sur les maladies infectieuses. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Dans sa nouvelle édition du rapport semestriel Africa's Pulse, la Banque mondiale prévoit une croissance de 3,3% en Afrique subsaharienne en 2016 contre 3% en 2015. Selon ce même rapport, la région ne devrait retrouver le rythme atteint en 2014, c'est-à-dire 4,5% annuel qu'à partir de 2017-2018. La pénurie de carburant s'accentue au Nigeria. Le gouvernement nigérian a prévu une aide d'environ 200 millions de dollars pour les importations dans ce domaine. Tunde Fatunde, journaliste basé à Lagos, nous en dit plus sur les causes de cette pénurie.
C'est la première fois depuis à peu près plus de 15 ans qu'on n'a jamais eu ce genre de problème de pénurie d'essence. Depuis plus de 3 semaines, la vie économique et sociale de Lagos et l'ensemble du pays est aux arrêts parce que le gouvernement était incapable d'organiser, de gérer l'importation de l'essence puisque les 4 raffineries ne fonctionnent pas.
Les douaniers du monde entier sont à Dakar. C'est dans le cadre d'un atelier régional de l'Organisation mondiale des douanes ouvert ce jour. Pendant une semaine, les participants vont chercher à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la contrebande de drogue acheminée par les voyageurs aériens.
La Minute Éco, merci John.
Place maintenant à l'actualité sportive avec nous Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Quart de finale retour de la Champions League demain.
Le Real Madrid aborde un challenge difficile contre Wolfsburg après sa défaite 2-0 à l'aller. Mais l'exploit à réussir rend le match encore plus excitant. C'est ce qu'a déclaré ce lundi l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane en conférence de presse. Dans l'autre rencontre, Manchester City-Paris Saint-Germain, le milieu de terrain italien Marco Verratti, blessé jusqu'ici, fait partie des 24 joueurs convoqués pour affronter les Citizens. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées au Parc des Princes par un match nul, 2 buts partout.
Parlons maintenant de la CAN féminine 2016.
Le Cameroun, pays organisateur de la prochaine CAN féminine, connaît 2 de ses invités depuis dimanche. Le Zimbabwe et la Guinée équatoriale ont en effet composé leur billet après leur victoire contre la Zambie 3-2 et le Mali 2-1. Suite des matchs retour ce lundi avec un prometteur Côte d'Ivoire-Égypte et le mardi avec l'Algérie qui sera en danger à Nairobi après avoir concédé le match nul 2 buts partout face au Kenya.
Fin de partie pour Jacques Fati à Sydney.
Le joueur sénégalais et le Sydney FC ont décidé de se séparer 1 an avant la fin du contrat du défenseur. Passé par le Stade Rennais, Marseille, Sochaux, Bastia en France, l'international sénégalais âgé de 32 ans aura disputé 30 rencontres du championnat australien sous le maillot bleu de Sydney où il était arrivé en janvier 2015.
Athlétisme, le Kenya va se mettre à la page.
Le président Uhuru Kenyatta s'est engagé aujourd'hui à faire une grande priorité l'adoption de la législation antidopage à temps pour que les athlètes de son pays ne risquent pas d'être privés des Jeux Olympiques à Rio. La deuxième échéance fixée par l'Agence mondiale antidopage pour que le Kenya renforce sa loi et finance la mise en route d'une agence antidopage a expiré la semaine dernière.
Merci Nicolas Pinault. D'autres nouvelles sportives à 19h temps universel dans Sporama.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce lundi, Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorsil. Place au dossier du jour. Première escale ce soir.
Le Congo-Brazzaville. Aucun bombardement par hélicoptère n'a été enregistré aujourd'hui, mais les populations qui fuient les zones ciblées par l'armée font état d'un déploiement impressionnant de troupes au sol. Dans les régions frontalières du Poul, comme la Bouenza, de nombreux déplacés arrivent après avoir parcouru des dizaines de kilomètres à pied. D'autres aussi sont accueillis. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Gwelan Goussou.
Si le week-end et ce lundi, l'armée a cessé ses bombardements dans le Poul, les populations, elles, continuent à fuir les zones ciblées. Plusieurs déplacés sont accueillis à Mindouli, l'une des principales villes du Poul. Dans les régions frontalières, les sinistrés ne font qu'arriver à Bouansa et à Loutété, dont la Bouenza, puis à Brazzaville par le Pékan Filou et la Casse-Barnier. Ayant perdu dans ces attaques d'hélicoptères sa mère et sa sœur, un jeune d'environ 30 ans, témoin de ce qu'il a vu à Vinza.
Ça se passe autour de 5 heures. Ce sont des bombardements des hélicoptères. Et tout le monde se sent réveillé. C'est la fuite. Chacun pour soi. Il y a eu des morts. Il y a eu vraiment des hectares de passion tumi, des aubergines qui étaient vraiment saccagées. Des ananas qu'on a bombardés seulement comme ça. J'ai vécu les drames. Je suis prêt à témoigner. Déjà, ils ont ôté la vie de ma mère, de ma sœur, qu'est-ce qu'il me reste à faire?
Depuis le début de ces bombardements, les responsables de l'opposition appellent le gouvernement à ouvrir un dialogue inclusif. Pascal Tsatsimabiala, candidat malheureux à la dernière présidentielle et premier secrétaire de l'UPADS.
Le dialogue serait certainement l'unique solution pour arriver à une paix véritable et sincère. Mais non, ce n'est pas à nous de prendre l'initiative, vous le savez bien, c'est le président de la République. Je ne pense pas que la solution à cette crise soit militaire. Elle devrait être forcément politique. On ne donne aucun bilan, on nous dit simplement qu'on pilonne ces zones. On ne sait pas combien de morts, combien de blessés, comment sont-ils secourus. Est-ce que la Croix-Rouge y arrive? On ne sait absolument rien. C'est une guerre à huis clos.
Étonné, Pierre Ngolo, le secrétaire général du parti au pouvoir, le PCT, se demande bien de quoi faut-il dialoguer après une élection dont les résultats sont définitivement connus.
On va dialoguer de quoi et sur quoi? L'élection, elle a eu lieu. Les résultats, ils sont là. Et on fait de la manipulation à outrance, voulant inverser les faits et donner l'impression que ben, finalement, ben, il y a un pouvoir qui a mis au point un scénario. À quelle fin? Nous savions que nous avons gagné. Alors pendant qu'on prépare la fête, on avait quel intérêt à aller tuer les citoyens du Congo? On a créé les conditions de contestation pour créer une crise et justifier des démarches allant dans le sens du dialogue. Nous sommes toujours pour le dialogue, mais il ne faut pas qu'on crée des crises.
Brazzaville, qui baigne dans son calme habituel, s'apprête à organiser samedi prochain l'investiture du président Sassou Nguesso. Nguelan Goussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Le référendum au Darfour n'est pas nécessaire, une consultation qui risque d'attiser les tensions ethniques sur le terrain. C'est l'avis de Djibril Abdelbadji, vice-président du Darfour Relief and Documentation Center, basé à Genève. La population du Darfour est appelée à partir d'aujourd'hui à dire si elle veut conserver la structure administrative actuelle du Darfour, divisée en 5 États, ou la fusionner en une seule et même région. Mais au micro de Jacques Aristide, Djibril Abdelbadji estime que ce vote, même s'il est stipulé dans l'accord de paix signé à Doha en 2011, n'est pas plus important que le sort des personnes qui souffrent du conflit qui perdure dans cette région. Djibril Abdelbadji.
À mon avis, cette concertation, elle n'est pas nécessaire du tout, voire elle n'est pas légitime. Et puis, il y a pas mal de déplacés internes, des millions, en fait, des gens qui ont tout perdu. Et puis, ce n'est pas la référendum administratif du tout, mais sur la question de paix, d'un règlement de conflits armés dans la région.
Pour vous, donc, ce référendum est un prétexte pour le président Omar el-Béchir d'asseoir son autorité sur cette région riche en pétrole, uranium et cuivre, comme le disent d'ailleurs les groupes rebelles?
Oui, absolument. C'est juste, c'est vrai. Le but final de ce référendum, en fait, alors de donner l'occasion aux alliés du gouvernement qui font la guerre, les milices, en fait, les janjaïdes, un contrôle absolu sur certaines régions de Darfour. Et puis, comme ça, ça va être pro, ça va régler en part de le problème. Et ça va créer beaucoup de problèmes pour les autres communautés qui ici, habitent au Darfour actuellement. Alors, le but, franchement, pour le gouvernement, c'est un but en question géopolitique. Contrôle de terre, contrôle de richesses naturelles, comme vous venez de dire, pétrole, cuivre, uranium, etc., etc.
Mais pour le régime de Khartoum, ce vote fait partie des termes de l'accord de paix de 2011, signé avec une alliance de factions rebelles qui sont en faveur d'une région unique dotée d'une large autonomie. Donc Omar el-Béchir est en train de respecter cet accord, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, ça fait un seul point parmi les autres points qui sont plus essentiels, à mon avis. Et puis, il faut savoir une chose aussi, toutes les forces politiques sont contre ce référendum. Ils ont fait ça savoir au gouvernement très clairement. En plus, tous les mouvements armés, le plus important, c'est les victimes du conflit, qui ne sont pas d'accord du tout sur cette question-là. Alors, c'est clair, le gouvernement a choisi quel convient. Dans l'accord de Doha, ce point, c'est la question du référendum administratif.
Le gouvernement américain dénonce une menace pour le processus de paix. Partagez-vous cette inquiétude?
Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec cette observation du gouvernement américain. Je pense que c'est juste parce que vous voyez, leur doit créer de nouvelles réalités sur le terrain. Il y a la question de titre à la terre et puis le but principal, franchement, de donner le droit à contrôler la terre à certains groupes ethniques de Darfour. Et puis le plus important, tous les mouvements armés de Darfour sont contre le référendum et puis demandent au gouvernement d'arrêter cette mascarade. Ce sera un point essentiel dans tous les débats futurs sur la question de paix au Darfour. Ce n'est pas nécessaire du tout. Ça va compliquer la situation. Ça va compliquer la réalité sur le terrain.
Djibril Abdelbadji, vice-président du Darfour Relief and Documentation Center, basé à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Les ministres des Finances de 15 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, utilisant le franc CFA, se sont réunis à Yaoundé samedi avec leur homologue français, Michel Sapin. La question de l'avenir du franc CFA, comme toujours, a été évoquée. Retour sur ce sommet avec le juriste et avocat d'affaires Jemal Taleb. Il est membre du think tank La Verticale, qui travaille sur le rapprochement économique entre les trois régions d'Afrique, Méditerranée, Europe.
Le franc CFA est ce que la colonisation nous a légué depuis 70 ans. Et il est le résultat d'une vieille politique de colonisation. Et donc, il n'a plus de sens aujourd'hui, très sincèrement. La France, à l'époque, mais toujours elle, à travers l'euro aujourd'hui, considère qu'elle porte une charge qui est le franc CFA et qu'en définitive, il faut le faire évoluer dans sa formule actuelle. Les Africains, de leur côté, considèrent qu'en réalité, ils n'ont pas de politique monétaire, ils n'ont pas de souveraineté monétaire. 50, voire 65% de leurs réserves en devises est déposée auprès du Trésor public français. Et donc, c'est une partie importante de la souveraineté de ces États qui est entravée. Ça, c'est un premier point. Alors, il a un avantage, incontestablement, parce que le franc CFA garantit une stabilité monétaire pour ces pays. Mais enfin, c'est une stabilité de façade, parce qu'en réalité, les leviers dont ont besoin les banques centrales pour des politiques économiques plus souples, le franc CFA ne les remplit pas, parce qu'en réalité, seule l'administration coloniale de l'époque, qui est donc l'administration coloniale française aujourd'hui, est capable de décider de ce qui est bon ou n'est pas bon en termes de convertibilité. Deuxième chose, c'est que les États aujourd'hui, suite à la chute des matières premières, ont des difficultés réelles. Et ces difficultés-là obligeraient, dans ce cas, un endettement plus massif. Et là, le gouvernement français dit, ben non, n'utilisez pas cela, ça n'est pas possible. Tournez-vous plutôt vers le fonds monétaire international. Et donc, ce type d'accord aujourd'hui pose un problème, ou en tout cas posera un problème, parce qu'en réalité, il pose la vraie question de la souveraineté des États africains par rapport, encore une fois, au franc CFA.
Justement, est-ce qu'une monnaie unique africaine est possible aujourd'hui ou même demain, au regard de la situation économique de bon nombre de pays du continent ou de celle des pays qui ont déjà leur monnaie? Je veux parler du Nigeria, de la RDC ou même de la Guinée-Conakry, par exemple.
Possible, oui, souhaitable, incontestablement. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Alors là, pour le coup, je n'en sais absolument rien. C'est-à-dire que créer une monnaie commune est un travail très, très compliqué, très difficile, et auquel on ne peut pas arriver du jour au lendemain. Tous les États qui ont mis en commun leur unité monétaire l'ont fait forcément dans la douleur. On a aujourd'hui la von euro, avec la difficulté qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a créé une monnaie commune, puis une monnaie unique, sauf qu'on n'a pas harmonisé derrière les politiques ni fiscales, ni des politiques économiques. Donc on a les difficultés qu'on connaît. Sur le continent africain, on a sans doute des problématiques de développement proches, on a des problématiques liées aux difficultés économiques et un environnement plutôt assez rapproché, et donc ça a un sens que ces pays-là aient une monnaie, à défaut d'être unique, qu'elle soit commune. Cela dit, ce ne sont pas des choses qui sont capables de se faire du jour au lendemain.
Jemal Taleb, juriste et avocat d'affaires, joint à Paris par John Lindon.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Nous partons à Madagascar, Gabi.
Un nouveau chef de gouvernement a été nommé par le président de la République. Il s'agit d'Olivier Mahafal, ancien ministre de l'Intérieur. Cette nomination survient 2 jours après la démission supposée de l'ancien premier ministre. Malice Hegur l'a joint, Djilora Milisson, consultant en communication, pour les explications.
Le président l'a choisi parmi 12 qui étaient présentés par les députés, membres du Parlement. C'est un ancien ministre de l'Intérieur, tout ce qui concerne le pays, et surtout les élections. Donc les élections qui se sont passées depuis l'arrivée du nouveau président, c'est lui qui était à la charge.
Pourquoi lui en particulier?
Le premier ministre actuel est parmi les plus fidèles du président. Dès le début, il était toujours avec lui. Qu'on appelle les cravates bleues, c'est-à-dire le parti présidentiel qui est le HVM. Il est parmi les plus fidèles des fidèles, donc je pense que c'est une des raisons pour quand on l'a choisi.
Pourquoi est-ce que l'ancien Premier ministre avait démissionné? Est-ce que vous connaissez les raisons?
Il y avait eu pas mal de tentatives donc venant de la présidence d'accélérer son départ. Et ce qui était évident pour les Malgaches également, le Premier ministre devenait de plus en plus pressant sur la préparation de 2018. Donc je pense que le président voyait en lui plutôt un challenger qu'un allié, et qui explique le clash entre les deux.
Est-ce que c'est le président qui l'a poussé à démissionner?
Le président a eu un entretien avec le Premier ministre la veille de son départ. Selon le Premier ministre, il a été forcé à démissionner. Il a été appelé pour un entretien qui n'a rien à voir avec son départ. Et à l'issue de l'entretien, on le présentait sa démission, c'est-à-dire on a déjà préparé un dossier, il devrait tout simplement mettre sa signature. Tout de suite après, il a fait une conférence de presse, c'est pas ce qu'il a expliqué. Il a su, comme tout le monde, à la radio, qu'il a démissionné. Donc il l'a contredit quelques heures après en faisant cette conférence de presse. Si on a bien compris, je pense que durant le week-end, d'après quelques informations personnelles qu'on a eues également, il a signé cette démission.
Ce nouveau Premier ministre, c'est le troisième chef du gouvernement en 2 ans. Comment expliquer une telle instabilité à Madagascar?
Tout a commencé donc depuis l'élection du président. C'est que on a une constitution qui n'arrangeait pas tout le monde parce qu'il y avait un référendum pour le changement d'une nouvelle constitution. Du fait qu'il faut que ce soit la majorité du Parlement qui présente le nouveau Premier ministre. Alors, à l'arrivée du président, c'est-à-dire il y a 2 ans de cela, c'était un groupe parlementaire qui s'appelle le MAPAR, durant la transition, qui a présenté le président. Mais quand il a accédé au pouvoir, il a fondé son propre parti. Et de là, donc, le clash a continué jusqu'à actuellement. Sauf que la majorité présidentielle a pris le dessus. Depuis, donc, les deux grands partis se sont toujours bataillés.
Djilora Milisson, consultant en communication à Tananarive.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. 4-0. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec à la présentation. Lionel Gaïma à la production.
Et merci, Monsieur Remkes, à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.